Espace 2, Annick Chuin.
Bienvenue à tous. Ce soir, donc, émission spéciale en direct autour de la Bosnie-Herzégovine à l'occasion d'un congrès international qui se déroule depuis ce matin et jusqu'à demain soir au CICG. Le CICG, c'est donc le Centre international de conférences de Genève qui se trouve non loin des Nations Unies. Le CICG où nous sommes réunis en ce moment avec nos invités Florence Hartmann, Béatrice Pouligny, Jovan Divjak, Georges-Marie Chenu, Srdjan Dizdarević et Christophe Solio. Florence Hartmann, ancienne journaliste au Monde, porte-parole du procureur du Tribunal pénal international à La Haye, auteur de Milosevic, la diagonale du fou en 1999 chez De Noël. Béatrice Pouligny, chercheuse à Sciences Po pour simplifier. Vous avez travaillé pour l'ONU et différentes organisations non gouvernementales. Je dirais, pour simplifier encore, que vous avez été dans à peu près tous les pays en guerre ou en crise. Vous avez écrit « Il nous avait promis la paix ». C'est un livre assez sévère quand même à l'égard de l'ONU et des relations en particulier de l'ONU avec les populations locales. Jovan Divjak, colonel de l'armée populaire yougoslave, mais ça c'était en 1992. Je vous vois réagir lorsque la guerre a éclaté en Bosnie-Herzégovine. Vous avez d'emblée défendu une république multiethnique et vous êtes, là je passe un peu les étapes, vous êtes devenu général de l'armée de Bosnie-Herzégovine et actuellement, donc vous n'êtes plus du tout à l'armée, vous dirigez l'association L'éducation construit la Bosnie-Herzégovine. C'est une association qui est destinée aux enfants orphelins de la guerre. Et vous avez écrit, enfin, c'est un livre d'entretien passionnant, très beau, qui a un beau titre aussi. Monsieur Divjak, si vous parlez, il faut prendre un micro.
Oui, oui, merci, oui,
c'est mieux. Mais, hein.
Je ne savais pas que vous avez lu ce mon livre. Non,
mais oui,
c'est
vous...
très bon entretien avec Florence Le Bruyère.
Exactement, qui, voilà, paraît, qui est paru chez Buchet-Chastel en 2004 et qui a un très beau titre avec référence Sarajevo, mon amour, mais pas pour rien, j'imagine. Voilà.
Mais aujourd'hui aussi, Sarajevo.
Toujours mon amour. Oui. Georges-Marie Chenu, vous êtes ancien ambassadeur de France en Croatie. Vous étiez à Zagreb. Vous avez été parmi les premiers observateur européen en 1991. Vous nous direz probablement quelques mots sur le déclenchement de la guerre, ce que vous avez vu et ce que les autres n'ont probablement pas voulu croire tout de suite. Vous avez ensuite été à Mostar, où vous étiez ?
J'ai représenté la présidence française dans le 1er janvier 1995, juillet 1995.
Et Srdjan Dizdarević, donc président du comité Helsinki pour les droits de l'homme en Bosnie-Herzégovine. Vous vivez donc à Sarajevo et vous avez notamment écrit, parce qu'il paraît qu'il y en a beaucoup d'autres, mais vous ne vous en souveniez pas, vous ne souveniez pas des titres. Alors je vais en citer un. C'était en 2003 aux éditions L'Armatan, Bosnie, enjeu de la transition. Messieurs Divjak, Dizdarević, c'est des noms qui disent vos origines ? Le micro.
Oui, mais d'origine, on dit d'origine croate peut-être, voilà.
Oh, pour et vous
non, mon père était d'origine bosnien, il est d'origine bosnienska Krajina, c'est tout près de Croatie, je pense qu'il est un réfugié après la Première Guerre mondiale.
Oui.
Et puis, 40 ans, j'habite Sarajevo. Je suis né par hasard, au hasard, à Belgrade. À cette époque, mon père était l'instituteur dans un village en Serbie. Et puis,
mais votre nom, il dit tout ça.
Mais on dit,
vous
on
savez,
dit...
nous en Suisse, on regarde les gens par région. Vous voyez
on
où je veux
Divjak,
en venir.
En français, on dit sauvage.
On dit sauvage.
Ah oui, Divjak. On dit en même temps fort et.
Ouais, c'est prometteur. Oh, je me réjouis, Monsieur Dizdarević. Votre nom, lui, dit quelque chose de vos origines. Et est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle à Sarajevo? Est-ce que quand on se rencontre, on te dit ah toi, tu viens de là? Ou pas du tout, on essaie d'ignorer.
Ce qui est important, c'est la façon dont je me sens et dont donc je m'identifie comme étant citoyen de Bosnie-Herzégovine. Mais dans presque tous les cas de figure en Bosnie, les gens à l'échelle locale sont en mesure de reconnaître si vous êtes d'origine serbe, croate ou bosniaque musulmane.
Et ça, ça se sait au cours de la conversation ? C'est culturellement, on se rend vite compte de ce qui se passe. Vous savez, on pose des questions en tant que Suisse. Nous, on repère vite les Jurassiens, les Neuchâtelois, les Genevois, Grande Gueule, etc.
Oui, vous avez des noms qui sont Très caractéristique pour une certaine ethnie, comme par exemple le nom de Mohamed, qui ne peut pas être
catholique,
confondu avec une autre ethnie. Et, donc, et même les noms de famille ont leurs sources et leurs racines qu'on peut reconnaître. Mais je pense qu'il ne faut pas trop prêter attention à ces éléments-là, puisqu'on essaye de dépasser tout ce qui était élément de division, tout ce qui était une ethnicité ou une religion accentuée au détriment de toutes les autres qualités, de tout ce qui nous caractérise.
Alors plus prudemment, je vais dire un français parfait. Une langue française parfaite. Alors je vais être encore plus prudente et je me tourne vers Christophe Solliot, bien de chez nous. Vous enseignez en Suisse, vous êtes le directeur exécutif de l'association Bosnia 2005 qui a mis sur pied ce congrès. 2 ans de préparation, de rencontres, de travaux sur place à Sarajevo. Un congrès qui a démarré ce matin avec
380 personnes.
380 personnes. Un congrès que vous voulez très concret, qu'il ne s'agit pas de discourir, mais de réfléchir, de faire des propositions. En quelques mots, le but d'un tel congrès ?
Oui, je crois que c'est celui de dépasser le simple constat on peut parler d'un échec partiel. Sur certains points, il y a des réussites, on va en parler tout au long de l'émission. On peut avoir un bilan selon ces analyses plus ou moins contrastées. Ces analyses, on les fait déjà depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, ce que nous aimerions faire, c'est certes être capable de procéder à un bilan, mais aussi d'avoir un regard sur l'avenir et puis d'être en position d'émettre un certain nombre de propositions réalistes pour lesquelles on aimerait s'engager, c'est-à-dire effectivement pour la Bosnie et puis d'une manière plus générale la région, l'espace yougoslave, comme aimait à l'appeler cette région Ivan Djuric, décédé entre-temps malheureusement, eh bien, nous tient à cœur et nous voyons cette région comme partie prenante de l'Europe. Et la Bosnie est un élément essentiel et le cœur un peu de cet espace yougoslave. Et nous aimerions qu'il soit fortement ancré dans l'Europe et nous aimerions qu'il dépasse, disons, un état de pacification qui nous laisse un peu sur notre faim puisqu'il y a énormément de problèmes dans différents domaines que l'on va aborder tout au long de l'émission.
Absolument. Alors, qui est là au congrès ? On ne va pas donner les noms, 380, mais il y a des diplomates, des intellectuels, des experts et puis pas mal de jeunes bosniaques, ou je me trompe ? Pas.
Oui, de Bosnia. Il y a beaucoup de...
Première erreur. C'était... Mais un culpa. Bosnia.
Oui.
Monsieur Diviak, si vous
il
prenez
votre
micro,
non oui.
Je dirais Bosnia. Alors,
oui,
on va expliquer.
Vous
Bosnia,
avez tout à l'heure, vous avez très bien dit Bosnia. Bosnia, c'est citoyen de Bosnie. Bosniaque musulman, bosniaque, croate et serbe. Et moi, comme mon cher ami, nous sommes bosniens.
Vous êtes
et j'insiste, je dis Bosnia.
Voilà. Et je ne vous en demanderai pas plus.
Il y en a qui profitent de dire, voilà, tu es serbe, ce soir tu es à cette émission encore, tu es serbe. Je dis non, je suis comme Bosnien.
Et à Sarajevo, de surcroît. Christophe Solliot, donc il y a des jeunes bosniens, me semble-t-il. Et ça, c'est intéressant de voir qu'ils sont là.
Alors,
jeunes, donc 25-30 ans.
On a eu à cœur, effectivement, d'avoir... une assemblée assez variée, des gens de Bosnie, des gens de la région, des gens de l'étranger, avec des profils différents, diplomates, politiques, experts, académiciens. Et puis, au niveau des gens qui viennent effectivement de Bosnie, certains qui sont dans la diaspora, eh bien, on a eu à cœur de donner un espace à ce niveau-là, à des jeunes qui s'engagent pour l'avenir de leur pays, soit en Bosnie-Herzégovine, soit à l'étranger, mais qui sont très actifs. Et l'avenir repose en partie sur l'intégration intelligente et l'accompagnement, je dirais, de ces forces. Et ce sera à Serjan de dire, est-ce qu'on fait bien ? Est-ce que cette nouvelle génération arrive à maturation ? Peut-être pas encore, mais en tout cas, on avait le souci de donner une place. Souvent, on parle des jeunes, on fait des projets pour les jeunes, mais c'est dans des centres centres de jeunes, c'est dans des sortes de ghettos. Et nous, on souhaitait leur donner la parole avec les grands, parmi les grands. Et on verra demain
s'ils
soir s'ils parient. Ils apprennent, on la leur donne. Hein. Demain, vous allez avoir un panel où il y aura Paddy Ashton, il y aura
donc le haut représentant
de la communauté internationale en Bosnie, il y aura Srdjan Dizdarević, et puis il y aura deux jeunes. Eh bien, moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial.
Je donne une preuve du panel qui était pour l'éducation et la culture. Parmi 12 panélistes, c'était 10 jeunes hommes de Bosnie-Herzégovine. Seulement deux âgés, comme moi. Ah.
Mais on ne vous voit pas à la radio.
mais je veux dire, j'ai 69 ans.
69 ans. Bon, on va parler tout ça des accords de Dayton, du passage à l'Union européenne, bien sûr, dans un instant. Mais pour commencer, sachez qu'à 21h15, enfin vous le savez ici, puisque vous y serez, nous diffuserons en direct le concert qui a lieu à l'occasion de ce congrès autour de la Bosnie-Herzégovine. Un concert avec le jazzman Bojan Z, et je passe la parole à mon collègue Ivor Malherbe pour vous en dire quelques mots et vous donner le goût de la musique.
Oui, alors bonsoir. Effectivement, j'ai la chance de pouvoir vous parler de ce monsieur qui est une force rayonnante de ce qu'on appelle le jazz européen, qui est un des prolongateurs, ça fait déjà un moment que ça existe, de ce qu'on appelle le Balkan jazz. Et ça a un sens, la musique, entre la musique traditionnelle des Balkans, globalement, on dira, et la musique de jazz, les esprits communs, comme ça s'est passé dans différentes régions du monde, et évidemment, également de ce côté-là. Et pour ce que je vous suggère, c'est de nous glisser un peu dans le piano de Bojan Zulfikar Pasic. Il est ici avec Scott Collier à la contrebasse. C'est un traditionnel bulgare, et je me réjouis de voir comment vont reconnaître nos invités cette musique. Thank you.
Radio Suisse Romande Espace 2, nous sommes en direct du Centre international de conférences à Genève où se déroule jusqu'à demain un congrès autour de la Bosnie-Herzégovine. Et nous sommes en compagnie de Florence Hartmann, Béatrice Poulini, Jovan Diviag, Georges-Marie Chenu, Serjan Dizdarevic et Christophe Solio. Alors Bosnie-Herzégovine un peu oubliée aujourd'hui, le monde a les yeux tournés alors bien sûr vers les catastrophes naturelles, mais l'Irak en particulier, un peu encore l'Afghanistan, monsieur Dizdarevic.
Oui, il y a deux événements clés, donc les accords de Dayton en décembre 1995 et puis les élections, les premières élections démocratiques en septembre 1996. Et pour une raison ou pour une autre, le monde a voulu croire que cette crise est achevée, que le pays est normalisé. Et puis il y a eu d'autres crises qui ont pris le dessus, qui ont attiré l'attention de la communauté internationale, notamment la Macédoine, le Kosovo, l'Afghanistan, l'Irak, le Proche-Orient qui est toujours à l'ordre du jour. Donc tout ça a fait que la Bosnie a été analysée d'une fausse façon, que tout allait vers une fausse impression concernant mon pays, alors qu'il est encore en crise et qu'il est en face de gros problèmes.
Alors vous avez dit Dayton il y a 10 ans, tout juste, enfin dans quelques semaines, 10 ans, des accords qui ont mis fin à la guerre, tout le monde s'accorde à dire mettre fin à la guerre, ce n'est pas la paix. Des accords, comment les qualifier? Je vais m'adresser au diplomate Georges-Marie Chenu, comment les qualifier? Des accords de avant tout politiques?
En fait, d'abord, c'est en effet des accords qui ont été négociés par les Américains, mais en partant d'une situation donnée. Il y avait déjà, dans les faits, une Republika Srpska qui s'était créée petit à petit, d'une façon tout à fait illégale, mais qui s'était dotée d'institutions, et ça dès à peu près 92, fin 92. Et puis, il y avait une fédération entre les musulmans, pour être plus simple, et les croates de Bosnie-Herzégovine, qui avait été créé un peu sous la pression des Américains, mais en même temps, parce qu'ils se rendaient bien compte qu'ils n'étaient pas unis, ils seraient écrasés par la Republika Srpska. Ce qui fait qu'au fond, les accords de Dayton, c'est rapprocher deux choses qui existaient déjà avant, et d'une façon un petit peu artificielle, les mettre ensemble dans une institution qui avait pour but, qui avait comme ambition de faire un pays unique. Et ça, c'est le premier article, il est fondamental. La Bosnie-Herzégovine est un pays souverain, indépendant et unique. Et c'est ce qui aurait dû inspirer tous les autres articles. C'était difficile, étant donné les circonstances, et difficile parce que ce qu'on voulait surtout, avant tout, et en ce domaine-là, la responsabilité est partagée par tout le monde. Ne croyez pas que je vais jeter la pierre à quelqu'un, on voulait finir la guerre.
C'était le moyen, faire ces accords-là. Mais c'est 10 ans qu'on est autour de ces accords et qu'on cherche à s'en dégager. Mais on va peut-être rentrer en Bosnie-Herzégovine avec vous, Jovan Diviak. Là, M. Chenu nous a esquissé les contours politiques. Entrons avec vous, comme si on avait une carte de géographie. On va en Bosnie. Il y a des frontières impalpables intérieures. Il y a des quartiers dans les villes. Vous allez me dire, non, on doit dépasser tout ça. Mais dans la réalité...
Demain, je me demande pourquoi on a donné 51% pour la fédération et 49% pour la République serbe. Je me demande pourquoi.
Réponse c'est de quelqu'un?
Oui.
Monsieur Chenu?
C'est le nettoyage ethnique. Mais je voudrais vous rappeler.
C'est ça.
Florence Hartmann.
Les lignes de front.
Mais pourquoi 51, 49, ce sont les résultats de la guerre. C'est-à-dire tout ce que les troupes de l'armée serbe ont occupé. On a arrêté, on a donné à République serbe. Pourquoi? Et la fédération, c'est une liée entre les Bosniaques et les Croates. Et les Croates contrôlent 27% du territoire et les Bosniaques seulement 24%. Et les derniers jours, on a parlé de nouvelle constitution de Bosnie. Et les Croates insistent sur la troisième république, c'est-à-dire la fédération de trois entités.
C'est pour ça qu'on parle. J'entendais dans les couloirs ici les gens parler de deux entités, c'est ce qu'on voit dans les livres. Et puis tout d'un coup, on entend trois entités.
Madame, chez nous, il y a trois l'histoire. Trois manuels scolaires, ouais, l'histoire, de géographie. Il y a, je vous donne deux exemples. Il y a 3-4 ans, il y avait une enquête dans les écoles où sont les Croates en majorité. La question était, quelle est la capitale de votre pays? On a répondu Zagreb. J'ai visité il y a quelques jours dans un village, j'étais avec les enfants, j'ai donné les cadeaux comme matériaux scolaires, et j'ai demandé aux jeunes de 7-8 ans, de quoi tu es supporter, comment on peut dire? Tu es supporter de quelqu'un. Il a dit SDA, l'autre SDA, le quatrième SDA. Je crois qu'il va dire, je suis supporter d'une équipe Tchelik, une équipe bosniaque, l'autre Sloboda, il a dit SDA. C'est-à-dire, dans tous les trois entités, on insiste qu'il se présente comme bosniaque, comme croate, comme serbe.
Srđan Dizdarević.
Donc, pour vous donner l'image de l'énorme changement, de l'énorme tremblement de terre qui s'est passé chez nous en Bosnie.
Avant la guerre,
il y avait déjà 20% de municipalités où l'une des trois ethnies avait la majorité absolue, donc 50% ou plus d'habitants qui appartenaient à une ethnie. Maintenant, vous avez moins de 5 municipalités où l'une des ethnies qui domine à moins de 90%. Donc la purification ethnique a marché.
Donc,
elle a été récompensée par les accords de Dayton.
Oui. L'ambassadeur Nikovac, qui a été le premier ambassadeur de Bosnie-Herzégovine à Paris, rappelait dans un article il y a peu de temps, d'ailleurs qui est paru il y a quelques jours, qu'avant la guerre, simplement 5% du territoire de la Bosnie-Herzégovine était mono-ethnique, alors que maintenant, pratiquement, c'est les pourcentages que vous avez donnés.
Encore un exemple. Par exemple, à Foča, avant la guerre, c'était 75% bosniaque. Aujourd'hui, c'est que 5% peut-être. Mais c'est Drvar, c'est la même chose. Avant la guerre, il y avait 95% serbes. Aujourd'hui, c'est 90% croates. Voilà, c'est trois entités.
Alors, c'est
trois
un
nationalités.
Changement, c'est un changement fondamental qui se traduit comment?
C'est la décision politique.
Oui, mais ça, dans les livres, on le lit, on dit, voilà, vous me donnez des pourcentages. Traduisez-moi les pourcentages.
Ça se traduit par une domination d'un groupe ethnique sur les autres.
Tout simplement.
Par une discrimination totale dans tous les domaines de la vie quotidienne. Vous ne pouvez pas avoir un emploi ni dans le secteur public, ni dans le secteur privé si vous n'appartenez pas au groupe qui domine. Vous n'aurez pas pour vos gosses une éducation dans laquelle son ethnie ne sera pas traitée comme agresseur, comme génocidaire, etc., s'il n'appartient pas au groupe majoritaire. Vous n'aurez pas des soins médicaux qui vous appartiennent comme à chaque être humain si vous n'appartenez pas au groupe qui domine, etc., etc.
Béatrice Pouligny.
Non, juste ajouter, je peux parler moins facilement que les collègues, les amis bosniens peuvent plus le dire, mais ce qui me frappe en Bosnie aujourd'hui, c'est cette frustration. Il y a bien des frustrations et des difficultés pour les gens à vivre au quotidien, et ça je crois que c'est quelque chose qu'il faut rappeler aussi. La vie est difficile pour les Bosniens, pour tout un tas de raisons, y compris parce que les traumas de la guerre, c'est une réalité et qu'on ne s'en sort pas comme ça. Mais cette impression d'enfermement, enfin beaucoup de collègues, de gens avec lesquels je travaille en témoignent beaucoup. D'être enfermé dans des identités. Et ça, je trouve que la communauté internationale est responsable de ça, parce que à la fois on essaie de faire croire qu'on a voulu ce pays unique, mais en même temps on ramène toujours les gens vers ces identités. On fait finalement peu de choses pour contrecarrer des stratégies politiques qui enferment les gens, qui occupent tout l'espace. On a aujourd'hui des panels, des groupes de travail sur l'éducation et la culture, et c'était dit clairement, c'est difficile pour des gens qui ont un discours autre, qui veulent échapper à des logiques politiques dominantes, on en parlait tout à l'heure aussi, qui sont des logiques nationalistes et religieuses qui enferment les gens, qui veulent enfermer les gens dans des identités. Si on refuse ça, on n'a pas d'espace en Bosnie. Il est difficile de trouver son espace en Bosnie. Et je trouve que c'est notre responsabilité, pour ceux qui sont extérieurs aussi, d'essayer beaucoup plus qu'on le fait, de tendre la main, d'aménager des espaces pour les multiples initiatives qui essaient de voir le jour, et pour tous ceux qui essaient d'inventer autrement, de réinventer autrement la Bosnie aujourd'hui, leur quotidien, leur avenir, leur histoire, on en parlait. Et ça, c'est une réalité qui est très difficile. On colle des identités aux gens et on leur colle des identités aussi héritées de la guerre, c'est-à-dire les identités de victimes. Je travaille beaucoup avec des femmes et des femmes qui ont été notamment victimes de viols. Souvent, elles me disent « mais il y en a marre, on n'est pas seulement des femmes victimes de viols ». Ça, c'est quelque chose de très fort. Les anciens combattants, beaucoup aussi. On enferme les gens. Et ça, je trouve que c'est une tendance qui est lourde, qui est difficile. Et encore une fois, ceux de l'extérieur, on a énormément d'efforts à faire pour donner des espaces et donner la voix à ceux qui essaient de faire autre chose dans ce pays.
Christophe Solio.
Oui, peut-être un petit complément critique, mais qui va tout à fait dans le sens de l'intervention que l'on vient d'entendre. Beaucoup de choses ont été faites ces 10 dernières années de par la communauté internationale pour promouvoir les initiatives citoyennes qui s'inscrivent en dehors du discours ethno-nationaliste. Et puis le résultat est là, il n'y a pas de changement en profondeur. On pourrait dire, prendre une image, que la greffe n'a pas pris. Je pense que trop souvent, on a imposé, de différentes manières du reste, des stratégies de l'extérieur sans regarder si elles étaient vraiment adaptées. Et aujourd'hui, quand il s'agit, pour reprendre ce que vient de dire Béatrice, lorsqu'il s'agit effectivement de soutenir des initiatives, je dirais de soutenir des initiatives locales qui sont gérées, conçues, menées par des acteurs locaux. Je crois que ça, c'est capital. Et j'aimerais ajouter un autre élément sur lequel on reviendra certainement dans la discussion, qui est très délicat. Je pense qu'il faut... pas tendre naïvement la main, on parlera de la réconciliation et de ces choses-là, mais je pense qu'il est capital d'avoir un débat politique entre les gens qui sont pour une Bosnie-Herzégovine unie, qui sont des Bosniens, et puis ceux qui s'inscrivent encore dans un discours fortement enraciné, je dirais pas ethniquement, mais culturellement, parce qu'ils font tous partie de la même ethnie. Ce qui les oppose, ce n'est pas leur différence, mais c'est plutôt leur ressemblance. Mais ça, c'est un autre discours.
Georges-Marie Chenu.
Je voudrais revenir sur cette description d'enfermement que vous avez fait. Un des facteurs, une façon dont les habitants de la Bosnie-Herzégovine sont enfermés, c'est qu'habituellement, ils ne voient que des fonctionnaires internationaux, qui sont d'ailleurs d'excellents fonctionnaires, qui ont des capacités, mais ils ne voient quoi ? Des fonctionnaires de la communauté européenne, des ONG qui deviennent de véritables institutions, et
qui
des fonctionnaires des Nations Unies.
Le
mais, et c'est là, je crois, la grosse erreur qu'a fait l'Europe occidentale, c'est que la société civile occidentale n'a rien fait pour se brancher, pour essayer de voir. Au moment où il y avait le siège, il y a eu des actions humanitaires remarquables faites par telle ou telle ville en France, en Bretagne par exemple, ou à Arles, enfin. Mais après, c'était terminé. Alors que c'était à ce moment-là qu'il fallait au contraire intervenir. Il fallait se brancher avec eux pour leur montrer, non pas comme un modèle, mais pour les stimuler, comment on vivait comme citoyen, tout simplement chez nous, comment dans notre village, dans notre ville, dans notre quartier, on vivait avec des personnes de religions différentes, d'âges différents, et avec des problèmes. Or ça, on n'a pas osé le faire parce qu'on a cru que c'était terminé avec l'arrêt des combats. Or, c'était quelque chose de beaucoup plus grave qu'une simple guerre. C'était une volonté culturelle de vouloir dominer sur d'autres cultures.
Florence Hartmann.
Aucun espace n'a été laissé dans la mécanique internationale qui s'est mise en place au lendemain des accords de Dayton. Aucune place n'a été laissée à la société civile parce qu'elle sortait du cadre institutionnel de l'après-guerre géré par une communauté internationale. Et c'est pas un manque de volonté, c'est que des petites ONG qui se sont créées par le résultat de citoyens du monde ou de l'Europe choqués par ce qu'ils ont vu, une guerre qui a duré, perduré pendant
pendant 3 ans et demi en Bosnie, sur l'ensemble des Balkans pendant 10 ans, ça, prévoyant sans être des experts ce qui allait se produire, parce que chacun sentait bien qu'une nouvelle guerre allait se prévoir, et le citoyen de base a été meilleur visionnaire que les politiques et les diplomates le plus souvent, ne faisait pas le poids avec 3 personnes qui rassemblaient des pommes de terre ou envoyaient des livres à Sarajevo, choquées par le siège d'une ville européenne ou de n'importe quelle ville, mais encore plus parce que c'était en Europe, ne faisait pas le poids face à l'OTAN débarquant avec 70 000 soldats et une communauté internationale avec des millions. Donc il n'y avait pas d'espace pour la société civile, et le projet de l'après-guerre, c'était un projet de geler des lignes de front et de geler le conflit, ce qui était très bien parce que ça sauvait des vies, mais c'était pas un projet d'avenir et c'était pas un projet où on associait la société civile. Et par exemple, 10 ans de communauté internationale en Bosnie-Herzégovine n'a pas prévu un seul projet. On a des passeports communs. Thanks God. Parfait, c'est très bien.
Des et encore, plaques, il faut les visas, je crois.
Des plaques d'immatriculation communes pour les voitures, de manière à ce que les gens puissent circuler sans être stigmatisés comme venant de l'autre ethnie ou de l'autre côté de la ligne de front, parce que les gens les vivent encore comme des lignes de front. Même
une
si
monnaie.
Une monnaie commune. La seule chose, il n'y a pas de programme scolaire commun. Donc chacune des ethnies est entretenue dans... c'est le principe, moi j'appelle ça... La guerre est une autre manière de faire de la politique. On peut faire la guerre après la paix.
Mais Dayton,
on peut
c'est
continuer
une mise
de cette manière-là.
Cloche.
Non, c'est un projet qui arrête les combats et c'est formidable, qui devait évoluer, qui n'a pas évolué assez vite. On fait le bilan maintenant. Il y a 5 ans, la société civile, les ONG, les experts, en dehors du cadre institutionnel, on dit attention, vous êtes en train d'aller droit dans le mur. Il y a 5 ans, c'était les experts fatigants qui sont pro-bosniaques, etc., qui étaient stigmatisés comme étant des empêcheurs de tourner en rond parce que les diplomates et les politiques savaient ce qu'il fallait pour ce pays. Il n'y avait pas de place et il n'y a pas de programme scolaire commun, ce qui veut dire, ce que chacun de vos auditeurs va comprendre, que chaque ethnie apprend le passé récent de son pays, et peut-être plus ancien d'ailleurs, mais parlons du passé récent, de la manière qui justifie la guerre et les crimes. Donc, certes, tout le monde peut se satisfaire que le conflit ne va pas commencer après-demain, mais il commencera après-demain.
Serdjan Dizdarević.
Ce qui est important, c'est que la communauté internationale a soit mal compris ce qu'était la vraie Bosnie et ce qu'était sa vraie multiethnicité, soit elle a choisi la solution la plus simple, c'est de négocier et de préférer les nationalistes. Parce que c'est moins compliqué que de...
Le message est clair, en tout cas.
Que d'essayer de refaire la Bosnie telle qu'elle était avant. Et donc, la communauté internationale n'est pas pour rien dans la crise que nous avons.